La revue de presse, les journaux du dimanche et autres que vous avez lus. Bonjour Jean-Philippe Ballas.
Bonjour à tous.
On commence avec le sort d'un photographe.
Oui, un dingue de boulot, un passionné d'images. Le genre jovial, toujours prêt à dégainer ses boîtiers, ses objectifs, sur n'importe quel sujet, surtout quand il n'était pas prévu. Ainsi, l'Union et l'Ardennais vous présente ce matin Christian Lantenois, 65 ans, l'un de ces photographes chevronnés qui font la PQR, la presse quotidienne régionale. Hier, Christian Lantenois a été pris pour cible lors d'un reportage dans un quartier sensible de Reims. Lâchement et violemment pris à partie alors qu'il se trouvait seul, raconte le journal. Hospitalisé, son état de santé était jugé très préoccupant hier soir. Christian est témoin de notre société. Il en paie aujourd'hui le prix si injustement, écrivent l'Union et l'Ardennais. Avec cette mise au point, renoncer à ce reportage, c'était fermer les yeux. Abandonner un pan de notre territoire et ceux qui y vivent, rien ni personne n'entravera notre volonté d'informer. Texte en première page ce matin, exceptionnellement, il n'y a pas de photo à la une.
Également dans le journal, une carte de l'Europe et elle vire au rouge.
Et même au rouge vif, Patricia, en Europe centrale, c'est le Parisien aujourd'hui en France qui vous donne de mauvaises nouvelles du Covid. Avec une troisième vague qui accélère, paraît-il, en Pologne, République tchèque, Roumanie. Le variant britannique y est très présent et l'épidémiologiste Antoine Flahaut, guère rassurant. Chaque fois que nous avons eu le démarrage d'une vague à partir d'un point de l'Europe, nous l'avons vu ensuite déferler sur l'ensemble du continent. Nous voilà prévenus. Et pendant ce temps, chez nous, eh bien, on a gagné du temps, justement. C'est ce qu'affirme le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, dans le JDD, qui insiste sur le taux de vaccination pour les plus fragiles. Il frôle les 80% en EHPAD, dit-il. Et plutôt que de parler d'un pari d'Emmanuel Macron, il préfère évoquer des mesures de freinage pour tenir et que la campagne se déploie. Oui, parce qu'il y a un mot qu'on ne veut surtout pas entendre à l'Élysée, c'est le mot confinement, nous dit le JDD. Emmanuel Macron ne varie pas, il s'accroche à cette volonté de ne pas fermer à nouveau l'ensemble du pays et préfère donc des mesures locales. Vous verrez les images de Dunkerque déserte dans la Voie du Nord, reconfinée et disciplinée. Aussi la promenade des Anglais, sans promeneurs, mais avec beaucoup de policiers dans Nice matin, sur fond de ciel bleu. D'ailleurs, Emmanuel Macron compte sur une météo plus douce pour contenir le virus. Même Jean Castex ne parle plus de retarder au maximum la fermeture du pays, mais bien de l'éviter, le Premier ministre le souligne dans un tweet. Bon, ça n'empêche pas non plus quelques trous d'air, constate le Parisien aujourd'hui en France. Exemple, moins de généralistes que prévu pour se procurer les doses chez AstraZeneca. Ouais, ils étaient 29 000 volontaires, seuls un peu moins de 20 000 se sont fait connaître auprès des pharmacies. Alors pourquoi ? Bah, démarche trop complexe, avance un médecin en région parisienne. Pourtant je m'étais inscrit, dit-il, mais il aurait fallu appeler tous les patients concernés, ceux entre 50 et 65 ans, atteints de comorbidité. Parfois même, il aurait fallu les convaincre, fixer une heure de rendez-vous. Et mon cabinet est déjà plein du matin au soir. Et je ne vous parle pas du stockage des doses. Il faut un réfrigérateur qualifié et contrôlé, explique le Parisien. Or, la grande majorité ne dispose que de simples matériels vendus dans le commerce, rarement situés dans un endroit sécurisé. Bref, la logistique.
La logistique, dites-vous, et dans la presse, il y a aussi la robotique sur Mars.
Bah oui, le petit robot Persévérance qui nous donne des nouvelles à la une du Télégramme. Personnellement, j'adore ces photos. La planète Mars aussi à la une de l'Équipe, ou plus exactement, la planète Marseille, avec des traces de vie nouvelles à l'OM. Réorganisation totale et joli billet de Vincent Duluc qui pose la question éternelle. À qui appartient un club ? À ceux qu'il aime ou à ses actionnaires ? Supporters et propriétaires s'appuient étrangement sur la même logique. Leur combat est légitime puisqu'ils paient pas le même prix, c'est tout. J'aime aussi cet entretien avec Axel Kahn dans le journal Le Monde. Les moments importants de la vie du généticien et ce tournant radical à 26 ans lorsqu'il découvre les derniers mots écrits par son père avant de se donner la mort, soit raisonnable et humain. Je termine avec cet hommage à Serge Gainsbourg dans le JDD. Je sais, il y en a partout pour les 30 ans de sa disparition. Mais bon, d'abord, écoutez ou réécoutez l'émission remarquable de Rebecca Manzoni sur France Inter.
Oui, c'était super, moi aussi, j'ai écouté. Je suis d'accord.
Je vous prépare le terrain, vous noterez. Et puis lisez ce récit délicat de Thomas Dutronc. Thomas Dutronc, le jour de sa naissance, Gainsbourg a envoyé un message à Françoise Hardy. S'il est timide, ce sera un petit Thomas à la tomate. Message que le grand Thomas a fait encadrer. Il lui doit aussi sa première cuite à l'âge de 11 ans, dans un resto chinois avec les parents. Serge me passait en douce quelques coupes de champagne. Et puis, il y avait les rendez-vous rue de Verneuil pour écouter de la musique. Une fois, Gainsbourg lui a passé « Love Me Tender » d'Elvis Presley. « J'aurais aimé composer un truc aussi beau », avait dit Serge. Et pardon les amis, ça vient quand même du monsieur qui a écrit la javanaise.
Gainsbourg, dites-vous, Jean-Philippe Ballas.